RCF.
Nous aspirons tous à être aimés et à aimer, car que serait une vie sans amour ? L'amour est crucial dans nos existences, mais comment parler de ce mot usé jusqu'à la corde ? Comment le définir et surtout comment le vivre, en faire l'expérience et lui donner toute sa place ? Pour nous aider à dégager l'amour de la gangue qui le recouvre, les mystiques chrétiens pourront nous être d'un grand secours. Cette semaine, je vous propose de regarder comment 5 d'entre eux nous invitent à aimer. Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, Madame Guyon, Thérèse de Lisieux et Thomas Merton. Pour nous accompagner, Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Pourquoi cet intérêt chez vous ? Pour les richesses que recèle la mystique chrétienne.
Alors, je me suis engagé dans la méditation il y a très très longtemps, plus de 25 ans, je l'enseigne. La méditation comme on la connaît aujourd'hui en Occident vient d'Orient. Et naturellement, étant occidental, j'avais envie de comprendre est-ce qu'il y avait des formes de méditation en Occident. Et là, j'ai découvert, c'est complètement inouï, vous ouvrez une porte et vous découvrez un château plein de trésors, trop peu connu, presque oublié. Et c'est cette exploration-là qui a commencé à me passionner. Et je dirais, pour moi, il y a plusieurs enjeux. Un, aujourd'hui, la méditation est réduite à une instrumentalisation, ce qui n'était pas le cas du tout dans la tradition orientale. Et je trouve que c'est absolument décisif de donner de l'ampleur à la méditation, de montrer qu'elle n'est pas une technique de gestion du stress pour être plus efficace et performant, mais qu'elle est une manière de retrouver un sens de présence et d'amour.
Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes nées dans le christianisme se sont tournées vers l'Orient, se sont complètement détachées de la tradition chrétienne pour aller méditer.
Parce que cette tradition chrétienne est malheureusement très peu connue, et les quelques chrétiens que je connais qui parlent de méditation en général, parlent de la méditation orientale rendue un peu technique, comme la pleine conscience. Et donc je vois beaucoup de gens, de chrétiens, qui parlent de méditation, et en réalité ils parlent de la tradition orientale, oubliant complètement les richesses de l'oraison, puisque c'est principalement de l'oraison dont il est question. Et l'oraison a toujours à voir avec l'amour. À partir de l'expérience quotidienne d'enseigner la méditation, que ce qui est absolument crucial, c'est retrouver un sens d'amour, de bienveillance, quel n'est pas mon étonnement de découvrir dans ce château inouï de la tradition chrétienne et émerveillant que la méditation, appelée donc oraison, a à voir, est d'abord une expérience d'amour.
Alors, vous parliez du château, ça tombe bien, puisque vous avez souhaité commencer avec Thérèse d'Avila, qui parle du château intérieur, grande figure de l'oraison au XVIe siècle, qui a réformé le Carmel, qui a aidé ses sœurs à prier. Quel est, selon vous, son message principal ?
Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette jeune fille est animée d'une ardeur impressionnante. C'est tout à fait amusant, quand elle est jeune fille, elle fuit de chez elle parce qu'elle veut devenir chevalier. Et puis, son père ne veut pas qu'elle rentre dans les ordres, elle rentre dans les ordres, mais elle est très marquée par l'exemple des ermites latins du XIIe siècle, et elle veut refonder une tradition de contemplation profonde où l'essentiel, c'est l'essentiel, où l'essentiel, c'est l'essentiel. Et pour ça, elle va mettre l'accent sur l'oraison. Comme elle le dit, l'oraison n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. Et c'est déconcertant de simplicité et déconcertant de profondeur.
Oui, il faut noter qu'à l'époque, les choses étaient assez codifiées. On disait il y avait des livres de prières, on disait des prières. Et elle dit, mais finalement, vous, à ses sœurs, vous n'avez rien à faire, juste à être là et à vous laisser habiter, à laisser la présence habiter votre cœur.
Parce que c'est clair, il y a plein de choses. Il y a la célébration de l'Eucharistie, il y a la Lectio Divina, il y a l'adoration eucharistique, il y a la méditation des mystères, il y a les prières personnelles, il y a plein de formes. Et tout ça a plein de sens, mais Thérèse se rend compte que si on ne fait pas ça dans la bonne disposition, c'est-à-dire que c'est quoi la bonne disposition ? C'est une disposition de présence, de confiance, d'une certaine forme de recueillement, il manque quelque chose. Et l'oraison, au fond, c'est ce qui va donner la lumière à l'ensemble de tout ce qu'on fait. Donc l'oraison n'est pas contre tout le reste, mais l'oraison, c'est vraiment se poser dans l'essentiel pour rien. Et donc vous avez tout à fait raison de souligner, il y a quelque chose de complètement gratuit, simple et déconcertant. Et je crois que c'est vraiment pour moi une des leçons des grands auteurs que j'ai lus, c'est qu'ils nous disent, vous vous trompez, l'oraison c'est beaucoup plus simple. C'est pas pour des gens particuliers, ça ne demande aucun effort. Comme c'est pas une technique, il n'y a pas des gens qui sont plus doués que moins doués, c'est le socle le plus simple. C'est juste s'autoriser à être et se laisser toucher par le fait qu'on est aimé et qu'on aime. Et ce qui est absolument, à mon avis, génial chez Thérèse d'Avila, c'est ne nous occupons pas du résultat. On le fait pour rien. Et donc, Thérèse d'Avila insiste, si vous voulez obtenir des expériences mystiques, c'est raté. Et elle-même, qui a vécu des extases très profondes, en était presque gênée. C'était pas du tout ce qui lui semblait important. Il peut y avoir des expériences grandioses, mais si on devient attaché à cette expérience grandiose, on n'est plus intéressé par l'expérience même. On ne s'ouvre pas au maître, à l'inconnu. On est juste obsédé par ce qu'on voudrait obtenir.
Fabrice Midal, Thérèse d'Avila, dit que la première chose à faire, c'est de ne rien faire, vous l'avez déjà dit, et de se laisser aimer, parce qu'elle parle de l'amour. Et elle a l'air de dire que finalement, c'est peut-être ça le plus compliqué, c'est de se laisser aimer.
Oui, parce que pour nous, ne rien faire, on a l'impression que c'est une forme de pure passivité opposée à toute forme d'engagement. Et on a même l'impression qu'aimer, ça serait un effort que nous aurions à faire. Et là, la leçon, c'est non, en ne faisant rien, en arrêtant d'être obsédé à la fois par le faire et par le résultat, on peut se laisser aimer. Et se laisser aimer, c'est une expérience qui vient toute seule pour autant qu'on s'arrête. C'est ça le paradoxe de l'oraison, c'est que comme c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre intellectuellement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire simplement, nous résistons. Nous sommes beaucoup trop intellectuels pour comprendre la mystique. Nous sommes beaucoup trop savants pour comprendre le mystère de l'oraison. Et je crois que ce mouvement-là, je ne fais rien, et en ne faisant rien, je rencontre que la présence même. Je crois que c'est l'expérience peut-être la plus bouleversante qu'un être humain peut faire. Je ne fais rien, et en ne faisant rien, quelque chose m'est donné, sans raison, pour rien, que je ne mérite pas, mais qui est là absolument comme un pur don.
On sent bien qu'à notre époque, il y a un enjeu, puisque on aimerait contrôler nos actes, nos résultats, les évaluer, les quantifier. Et là, c'est vrai que Thérèse d'Avila entraîne ses sœurs à sortir complètement de cette logique-là.
C'est clair, c'est tout à fait frappant qu'à l'époque, je crois que le principal obstacle que Thérèse a rencontré, c'était l'intellectualisme de la théologie. Donc les gens étaient un peu déconcertés par la simplicité. Et aujourd'hui, notre problème serait plus l'obsession de tout gérer et de tout contrôler. Nous sommes, au fond, on serait d'accord de l'oraison si on explique que ça va gérer vos émotions pour vous permettre d'obtenir un rapport plus efficace avec Dieu. Mais l'idée que c'est pas vous qui avez à faire la chose, qu'il faut que vous appreniez doucement. Alors, en plus, c'est très pédagogique. Bien sûr, vous pouvez vous aider à un moment de lire certains passages, les savourer pour vous aider à rentrer dans la présence. Mais plus vous laissez le silence être, plus vous laissez le rien venir, plus il y a de la place pour Dieu. Parce que si vous êtes tellement préoccupé par plein de choses, il n'y a pas de place pour rencontrer cette présence aimante.
Alors ce qui est très fort chez Thérèse d'Avila, c'est qu'à un moment, elle dit « je ne suis rien si vous n'êtes pas là ». Alors elle parle de Dieu, vous êtes tout et pardon, par le don, vous me faites exister.
Oui, c'est une expérience. Ce don, c'est une expérience très simple. C'est quand je suis dans le contrôle ou dans l'organisation, au fond, mon être est très restreint. Et ne faisant rien, je découvre vraiment une profondeur de présence qui me fait être, mais non plus être au sens d'une identité fixe que j'ai à défendre, mais au sens d'une plénitude de rencontre. Et c'est cette rencontre qui transforme, qui me transforme et transforme le monde. Donc c'est vraiment la joie d'être aimé et d'aimer dans le même mouvement.
On retrouve ça dans l'évangile quand le Christ dit quand tu veux prier, donc faire oraison, retire-toi dans ta chambre et tiens-toi là, seul, dans le secret.
Ce n'est pas pour rien que toutes les grands mystiques qui ont travaillé sur l'oraison sont des grands lecteurs de l'évangile. Il y a quelque chose de très évangélique dans l'oraison, on peut dire. Le geste du Christ, juste toucher le Christ guéri, ce geste-là que nous montrent les évangiles, au fond, c'est ça le geste de l'oraison.
Intérieur. Une sorte de toucher intérieur, finalement.
C'est une sorte de toucher intérieur, même si... Alors, ça s'est devenu un peu... On appelle ça toujours un peu intérieur. Moi, j'ai un doute sur la notion d'intérieur, même si c'est souvent comme ça que c'est dit, parce que c'est à l'intérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce que je rencontre ? Le tout autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être égarant de parler d'intériorité. Donc, je sais qu'on parle souvent de l'oraison comme travail d'intériorité, mais je me demande si, au fond, l'oraison, c'est pas au contraire sortir de son intériorité pour rencontrer la présence nue, rencontrer qu'on est aimé. Et peut-être, il faudrait changer peut-être de discours, parce qu'aujourd'hui, intériorité, on a vraiment l'impression qu'on se coupe du monde, qu'on rentre vraiment en soi-même. Oui, mais soi-même, il n'y a plus de soi, au sens de quelque chose de crispé. C'est quand même inouï. Je rentre en moi, et qu'est-ce que je découvre ? Un espace infini.
Donc l'ouverture à l'autre.
L'ouverture, oui, à l'autre, si l'autre, c'est l'immensité de la vie même. Et ça, je trouve que c'est très, très, très important, parce que l'intériorisation aujourd'hui est tellement psychologisée que je ne crois pas qu'on entende bien l'expérience qui est décrite par Thérèse d'Avila.
Fabrice Midal, nous regardons avec vous le parcours et le message spirituel de 5 grandes figures chrétiennes qui ont consacré leur vie à l'amour, amour de Dieu, amour de soi, amour des autres. Après Thérèse d'Avila, vous avez choisi de parler de Jeanne d'Arc, une figure souvent récupérée hein, aujourd'hui. Alors Jeanne n'est pas simplement une meneuse d'hommes, c'est aussi une femme de foi extraordinaire. Pourquoi vous l'avez choisie ?
Il y a tellement de raisons. Peut-être une des raisons, c'est la pureté la plus grande, la pureté de l'amour la plus grande. Il y a d'autres figures féminines grandioses, Judith, Esther, auxquelles on l'a comparée. Mais il y a quelque chose chez elle d'une pureté qui désarçonne, puisque dans un sens, elle ne veut rien pour elle-même, elle n'a aucune ambition personnelle, ça déconcerte. On a un document incroyable qui est les minutes du procès. Vous êtes saisi de comment peut-elle répondre comme elle répond dans une telle nudité. C'est au fond un des enseignements du Christ, c'est la nudité la plus extrême. Il naît comme un enfant dans l'étable, il meurt nu sur la croix, il y a quelque chose d'une nudité extrême de l'être qui soutient sans artifice, sans répondre au mal par le mal. Jeanne d'Arc manifeste cela d'une manière très profonde et très exemplaire.
Elle a décidé de faire du Christ son centre, enfin depuis le début, depuis son enfance, elle choisit l'amour du Christ.
Et elle le fait dans une forme d'abandonnement très profond. Et je trouvais intéressant, essayant de parler de la dimension méditative au sein du christianisme, de prendre l'exemple d'une femme d'action pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la dimension d'oraison et la dimension d'action.
Mais justement, comment articule-t-elle les deux ? Parce que c'est une femme meneuse, elle va batailler, elle va avoir le pouvoir.
C'est l'être de tous les paradoxes. Une petite paysanne qui devient homme de guerre, un homme de guerre qui revendique qu'elle n'a tué personne. Enfin, c'est tout à fait paradoxal. Mais il n'y a pas d'opposition. Nous, on oppose l'action d'une forme de passivité. C'est un très grand dommage, parce qu'au fond, il faudrait penser. Il y a une forme d'action où le moi-même est au cœur de la chose. Comment je fais ? Quel but j'obtiens ? Et il y a quelque chose d'autre qui est se laisser agir par quelque chose d'autre que soi-même. Savoir que ce n'est pas nous qui sommes le centre de tout, mais qu'il y a une présence plus grande au cœur de nous-mêmes.
C'est ce que dit saint Paul quand il dit « ce n'est plus moi qui agis, mais c'est le Christ qui agit en moi ». Donc se laisser traverser par une force d'amour.
Absolument, de présence et d'amour. Et alors, une autre chose qui est complètement incroyable, c'est Jeanne d'Arc, c'est on a l'opposition entre une paysanne et Ce procès, qu'est-ce que c'est ce procès? C'est l'Université de Paris à son sommet qui vient. Il y a presque une centaine de personnes qui viennent au procès, qui se veut exemplaire. Ils veulent vraiment que le procès ne soit pas entaché de la moindre faute. Il est dirigé par le célèbre abbé Cochon. On ne se rend pas compte, mais c'est le pouvoir de l'université à son sommet. Ce sont des spécialistes du droit canon, du droit latin, et ce sont des spécialistes de théologie à un très haut niveau qui viennent ici en découdre avec Jeanne d'Arc.
Mais donc, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, justement ? Porter des habits d'homme, avoir quitté ses parents sans qu'ils lui donnent congé, s'en remettre à des voix qu'elle entend ?
Oui, c'est très confus. On veut la piéger. Mais peut-être juste, je voudrais insister sur qu'est-ce qui se joue dedans. C'est vraiment un moment où l'université a réussi à s'imposer comme association libre et on va leur donner le pouvoir, un pouvoir, et ils veulent le garder, avoir le monopole du pouvoir de la pensée. Et donc c'est vraiment l'opposition entre, voilà, je dirais, c'est l'opposition entre l'intelligence et l'esprit. Quand je lis les minutes du procès, je vois l'intelligence sublime, exemplaire, enfin c'est pas sublime, mais disons puissante au plus haut point, et de l'autre côté, la simplicité de l'esprit. Et on est ahuri qu'ils n'entendent pas ce qu'elle dit. Donc il y a encore vraiment une figure complètement christique, c'est-à-dire, au fond, de quoi est accusé le Christ? Et comment elle se défend? Par une nudité déconcertante qui peut faire penser...
Au procès du Christ.
Et alors, il y a une phrase, il y en a plein, on pourrait citer plein, mais il y a une chose qui est complètement un des moments les plus incroyables, qui donne la chair de poule, c'est « Vous avez tous les intellectuels de son temps, tous les experts de son temps ». Et donc, il lui pose la question la plus retorse. Est-ce que vous êtes en état de grâce ou pas? Alors, elle répond oui. Péché d'orgueil. Elle répond non. Et donc, on peut la brûler. Donc, on en est débarrassé. Qu'est-ce qu'elle peut répondre? Mais elle dit quelque chose comme, si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Vous dites, mais comment peut-elle, dans la tension d'un procès, enfermée comme ça, répondre quelque chose d'aussi bouleversant? Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Et que si j'y suis, que Dieu m'y garde. Rien ne serait pour moi plus douloureux que d'être privé de cela, de cette présence de Dieu. Vous voyez, c'est tellement bouleversant de voir ce que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste. Et là, on voit vraiment l'Esprit Saint qui se manifeste, c'est-à-dire la nudité et la pudeur la plus grande, la pureté de cœur la plus profonde.
Fabrice Midal, qu'est-ce que Jeanne d'Arc peut nous apporter à nous qui voulons cheminer dans l'amour, nous mettre à l'écoute de l'essentiel et dans la présence?
Alors il y a évidemment la simplicité, la naïveté et l'esprit d'enfance qui sont tellement... puisque le sens de ne rien faire, le ne rien faire central, vous ne faites rien, vous vous laissez être, vous ne décidez pas. Au fond, ça c'est... Ça a beaucoup à voir avec l'esprit d'enfance et de simplicité. Et ce qu'on voit lors du procès, c'est justement l'opposition entre l'intelligence des intellectuels qui savent tout et cette femme toute simple. Pour elle, peut-être ce qui est important, c'est que toujours Dieu devant la face. C'était une des choses qu'elle dit, toujours Dieu devant la face. Elle est donc animée ici par quelque chose d'une confiance qui dépasse absolument toute logique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'estime de soi, la confiance en soi, et je crois qu'on comprend rien parce que on peut pas avoir confiance en soi. Là, il faut dire aux gens, on peut pas avoir confiance en soi.
C'est-à-dire?
Comment je pourrais avoir là, quand je vous parle, est-ce que j'ai confiance en moi? Comment je pourrais avoir confiance en moi? Il y a toujours un doute. Mais on peut avoir confiance dans quelque chose de plus grand que soi. On peut avoir confiance dans cette présence aimante et dans le fait que c'est pas nous qui sommes le centre. Parce que confiance en soi, c'est on veut redevenir le centre, mais on peut pas être le centre. On ne peut pas être le centre pour une raison toute simple, c'est que notre existence est un mystère à nous-mêmes. Nous ne sommes pas une identité figée. Nous sommes, au fond, un mystère, quelque chose d'une profondeur Et on le sent tous quand les gens disent « Ah oui, toi, t'es comme ça ». Non, on n'est pas tout à fait comme ça. « Ah oui, toi, t'es vraiment comme ceci ». Non. Et donc là, je crois que ça montre cette dimension qui nous ouvre à l'inconnu qui nous habite et qui, au fond, est notre ami.
Brièvement, sur la fin de la vie de Jeanne d'Arc, c'est vrai qu'il y a le bûcher, cette disparition terrifiante. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne à ce moment-là ?
C'est le consentir. Il y a quelque chose, elle consent au bout d'un moment. Elle voudrait échapper, c'est très beau, elle veut échapper aux flammes. Et au moment où il faut qu'elle se renie, elle préfère ne pas se renier. Parce que je crois que la grande conviction de Jeanne d'Arc, ce qui l'a menée toute sa vie, c'est le péché. C'est pas tant faire ceci ou cela, faire le mal, c'est d'être privé de cette présence aimante. Et ça, je crois que c'est un renversement extrêmement profond, qui, vous voyez, n'est pas si loin de ce que pouvait nous dire Thérèse d'Avila. C'est perdre cette présence, c'est ça la catastrophe. Et on peut tout bien faire, mais si on n'est pas en rapport à cette présence, au fond, ça n'est pas vraiment juste.
Série d'entretiens avec le philosophe Fabrice Midal au sujet de l'amour en nous appuyant sur les leçons de 5 grandes figures chrétiennes. Fabrice Midal, vous avez choisi dans ce 3e volet de nous parler d'une laïque, Madame Guyon. Elle a œuvré au XVIIe siècle, elle va développer une spiritualité du pur amour. Brièvement, qui est-elle ? On la connaît pas forcément.
Alors, Madame Guyon, elle est élevée comme une fille d'une toute petite noblesse. Et c'est vraiment pas facile d'être une femme à cette époque-là, peu d'éducation. Elle est tout le temps très gravement malade. Si son père s'était pas un peu occupé d'elle, je pense qu'elle serait morte. Sa mère n'avait absolument aucun intérêt pour sa fille. Elle est mariée de force contre son gré. Elle aurait bien voulu rentrer au couvent. Son mari est un homme absolument effrayant. Elle est enfermée avec sa belle-mère. C'est une sorte de très grande douleur. Puis son mari meurt. Et là, dans l'Ancien Régime, c'est un peu la seule chance que vous pouvez avoir quand vous êtes une femme, d'être veuve, parce que là, on peut plus vous marier, et vous avez une certaine liberté. Et là, elle va pouvoir s'engager plus avant dans ce qu'il appelle au plus profond d'elle, qui est la voie de l'oraison. Et alors, elle va s'engager dans la voie de l'oraison. Et si d'abord, elle a eu à souffrir de sa famille, là, elle va commencer à souffrir de certains théologiens qui vont pas trop comprendre ce qu'elle essaye de faire. Elle va devenir la maître spirituelle de Fénelon. Donc, phénomène complètement incroyable. Une femme, sans trop d'éducation, qui devient le maître spirituel de la personne la plus en vue en France, l'une des plus belles intelligences, un homme absolument remarquable, mais qui se sent coincé dans l'avancée de son chemin d'homme, dans son chemin spirituel. Et il va devenir son disciple.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit, justement, sur cette vie spirituelle et l'oraison ?
Alors, je crois qu'elle a écrit un livre. Je pense que je vais lire le titre du livre qui dit tout. Le moyen court est très facile de faire oraison, que tous peuvent pratiquer très aisément et arriver par là, dans peu de temps, à une haute perfection. Je relis le titre parce qu'il est quand même un titre incroyable.
Le moyen court
est très facile de faire oraison, que tous peuvent pratiquer très aisément et arriver par là, dans peu de temps, à une haute perfection. Alors, c'est très singulier. Au fond, pour les gens qui sont pas trop de compétences, ben, il y a un moyen au fond tout simple d'entrer en rapport à Dieu, c'est l'oraison dans lequel vous ne faites rien, vous vous autorisez juste simplement à être et à être aimé. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très radical dans le geste du désattachement, moi je préfère dire désattachement que détachement, du désattachement central. Dans l'oraison, vous vous oubliez pour qu'il y ait place à quelque chose d'autre que vous-même. Soit ça tourne un peu en boucle, et quand il y a autre chose, ça devient beaucoup plus vivant et heureux.
Alors donc, se tenir en silence devant Dieu, ne rien faire, écouter.
Et alors, un des points clés de ce qu'elle essaye de dire, pourquoi elle appelle ça le pur amour, c'est qu'il faut aimer pour rien. Et donc il faut faire même une hypothèse absurde, qui a beaucoup choqué, mais une hypothèse absurde, même si je savais que j'allais en enfer, il faudrait que j'aime Dieu. Il y a le pari de Pascal, et là, il y a le pari de Madame Guyon, qui est là, complètement déconcertant, mais qui est comme qu'il faut prendre comme un moyen d'essayer d'entrer dans la profondeur de l'amour. Pourquoi ? Parce que si j'aime parce que je veux aller au paradis, je n'aime pas, je veux obtenir quelque chose. Il faut donc que ce soit un amour absolument pur, un amour absolument gratuit. Le geste de l'oraison, c'est « je ne fais rien », et en ne faisant rien, il se passe plein de choses, et ce geste-là a à voir avec un geste d'amour absolument pour rien.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui méditent pour être bien, pour se sentir mieux, pour obtenir des bénéfices, finalement.
Et donc, ils ne pratiquent pas. Ils font du divertissement. Parce que chercher à aller mieux, c'est au fond fabriquer quelque chose. Et c'est la non-fabrication qui importe. C'est dans la non-fabrication que se dévoile le sens profond de l'être, le sens profond de l'amour, le sens profond de la présence. Et donc, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, l'instrumentalisation est une catastrophe. Et c'est pour ça que je trouve que Mme Guyon est vraiment tellement parlant pour nous, parce qu'elle met vraiment au cœur cet abandon, cette nudité qui est tellement libératrice.
Fabrice Midal, Madame Guyon n'est pas une mystique éthérée. Elle est pleine de bon sens et pourtant, elle va être condamnée, comme le fut en son temps Jeanne d'Arc, comme le fut Maître Eckhart. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
Alors là, c'est un moment absolument décisif de l'histoire de l'Occident, la condamnation de Madame Guyon. Le vrai conflit va apparaître entre Fénelon et Bossuet. Et au fond, c'est un moment mais tellement bouleversant parce que Bossuet va attaquer Fénelon et Fénelon a le choix. Soit au fond, il se range du côté de Bossuet et abandonne Madame Guyon, et il devient dans une position de puissance encore plus grande, parce qu'au fond, Bossuet l'aime bien, et il choisit de tout perdre par fidélité à Madame Guyon. Donc ça, c'est très très émouvant personnellement, mais l'enjeu ici, c'est qu'on reproche à Madame Guyon que par l'oraison, ce moyen court, qui peut aller à tout le monde, qui permet d'entrer en rapport à Dieu tout simplement, en ne faisant rien, met à mal le rôle de l'Église et des prêtres, puisqu'il y a un rapport à Dieu sans médiation. Donc ça fait peur l'idée qu'on dise aux gens il y a un rapport sans médiation. Et on ne comprend plus cette dimension de présence. On va accuser ça de ce qu'on appelle le quiétisme.
Mais en plus, Madame Guyon n'en voulait pas à l'Église, institution. Elle était dans l'Église.
Tout à fait. Non, il n'y a pas juste l'Église qu'on devient terrorisée.
Parce qu'elle sent que c'est une menace.
De cette présence-là. Alors c'est l'abbé Brémond qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui lui considère que c'est à ce moment-là que l'Occident ne comprend plus rien à ce qu'est ce qu'on appelle la mystique, ce qu'est l'oraison, ce qui va faire que, par exemple, plus personne va lire Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Toute cette dimension-là va disparaître de l'Occident. Moi, je dirais, si aujourd'hui la méditation vient en Occident, c'est parce que comme on a condamné Madame Guyon, on n'a plus du tout compris ce qu'était l'oraison, on n'a plus du tout enseigné, enfin, de manière très, très, très restreinte.
Résultat, les gens sont allés en Orient la chercher.
Oui, quelque chose s'est complètement perdu. Enfin, c'est vraiment un moment d'obscurcissement extrêmement profond. Et donc, on va opposer à ce moment-là tout le discours qu'on a. Si on est dans l'oraison, alors on ne s'occupe pas des autres, on abandonne les gens, que ce qui compte, c'est les œuvres. Et là, d'un seul coup, c'est tout un certain discours qui va avoir lieu, on arrive maintenant un peu au terme, et on sent bien que le pape François est marqué par cet esprit-là. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, c'est un peu moins effrayant, mais c'est très intéressant. Le quiétisme, ça n'existe pas. Personne n'a dit que vous êtes dans un état de quiétude et vous ne faites plus rien. C'est pas du tout ça. Le quiétisme, c'est une manière qu'on a nommée pour mettre de côté.
Pour l'évacuer.
Mais même encore quand je parle avec beaucoup de chrétiens, de l'oraison de ça, ils me disent surtout ne parle pas de Madame Guyon et du pur amour. Ça reste encore quelque chose qui gêne. Cette idée de cet amour absolument pur pour rien, dans lequel on ne fait rien, semble encore aujourd'hui une provocation, alors que ce que va essayer de montrer Fénelon, c'est que Madame Guyon ne dit rien d'autre que ce qui est dans les évangiles, que ce que dirait Thérèse d'Avila, que Saint François de Sales. C'est consubstantiel, au sens profond. Je ne fais rien parce que si je fais plein de choses, il n'y a pas de place pour rencontrer le tout autre, cette présence nue, et que je vis au fond dans quelque chose de tout à fait étroit, malheureux.
Alors justement, pour reprendre l'articulation entre la contemplation et l'action, puisqu'on reproche à Madame Guyon de quiétisme et de pas agir, comment parle-t-elle de cette articulation ? Le fait de ne rien faire ne veut pas dire se désintéresser du monde pour elle ?
Oui, on pourrait dire. C'est comme Peut-être un exemple, c'est quand on laisse une terre en jachère. Quand on laisse une terre en jachère, il ne se passe pas rien. On laisse la vie renourrir le sol et ça permet de produire des choses après. Donc, qui a un temps de jachère, c'est qu'une image, mais il ne se passe pas rien. En ne faisant rien, il ne se passe pas rien. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Je ne fais rien et pourtant, tout se met en œuvre dans le fait que je ne fasse rien. La vie revient. Je suis réaccordé au monde. Aimé. Au fond, c'est le grand problème. Quand j'agis en ne me sentant pas aimé, mon action est comme appauvrie, comme à côté. Elle n'est pas pleinement en rapport à la réalité. Donc c'est exactement l'inverse. C'est par l'oraison que je suis en rapport à ce qui est à faire.
Donc Madame Guyon, en nous invitant à nous centrer dans l'essentiel, dans la présence pure, dans la gratuité de la présence,
nous rend humain. Et en nous rendant humain, il nous permet de faire tout ce qu'on veut. Et alors, ça c'est très important. Et ce qui est très aidant aussi de comprendre dans le moyen court que j'invite tout le monde à lire, c'est que c'est très pratique. Elle explique aussi qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de pensées, quand on est dans le divertissement, parce qu'on réfléchit à d'autres choses. C'est très concret. C'est pas un truc... Parce que bien sûr, le vrai problème, c'est d'accord, je reste, je ne fais rien. Bon, ben, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer, qu'est-ce que je fais? Et bien sûr, il faut apprendre à rester là, quoi qu'il en coûte. Ce que disait déjà Thérèse d'Avila, il faut rester quoi qu'il en coûte. Dans ce temps, pour rien, on se laisse être rencontré par Dieu. Un temps pour se laisser toucher par la grâce. Un temps pour se laisser habiter par l'amour. Et bien sûr, vous êtes pris par, vous pensez à des tas d'autres choses, ou alors c'est très sec. Et comment on peut travailler avec ça?
Alors qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, sur la sécheresse
quand... Qu'il faut, comme le sens n'est pas d'avoir une expérience quelconque, ça n'a pas tant d'importance que ça. Nous sommes prêts à ne rien faire, mais on veut tout de suite qu'il y ait un bénéfice. Et il faut abandonner ça aussi. Et donc, de ce point de vue-là, Madame Guyon est une figure très, très impressionnante. Elle est devenue une figure aussi très impressionnante de tolérance. Ça, c'est aussi très important parce que beaucoup de protestants vont venir étudier auprès d'elle. Parce que comme pour elle, l'essentiel, c'est cette rencontre avec Dieu, plutôt que des enjeux théologiques, l'opposition entre catholiques et protestants ne lui semble pas aussi cruciale de justifier la guerre et les meurtres.
Donc elle est œcuménique.
Donc elle a une forme d'œcuménisme, dans la rencontre de Dieu, on peut se rencontrer. Ça va jouer un rôle absolument majeur, parce qu'elle va être extrêmement lue après en Allemagne, donc elle va avoir une influence absolument considérable, et quand elle va sortir de l'abbaye où elle est enfermée et elle va à Blois, elle n'a pas trop le droit d'enseigner, mais des gens viennent quand même de toute l'Europe. Par là, par cette simplicité-là, on peut se rencontrer aussi.
Nous poursuivons avec vous, Fabrice Midal, notre petit voyage au cœur de l'Occident chrétien, riche d'hommes et de femmes qui s'ouvrent à l'amour et qui nous montrent que la voie première, eh bien, finalement, c'est de se laisser aimer. Nous avons évoqué avec vous Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, Madame Guyon. Nous regardons maintenant Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux. Alors ça, c'est intéressant, à une époque où la justice est mise en valeur, hein, elle va parler de la miséricorde, de l'amour. Elle centre vraiment son message sur l'amour,
oui,
l'amour de Dieu.
Et Thérèse de Lisieux a été très marquée par Jeanne d'Arc, hein, pour faire le lien. Elle a elle-même... On a beaucoup de photos d'elle en Jeanne d'Arc. Elle a écrit une pièce de théâtre de Jeanne d'Arc. Donc c'est intéressant de voir le lien. Jeanne d'Arc était une grande source d'inspiration pour le mouvement de son action. Même si elle, après avoir beaucoup hésité, elle a beaucoup voulu s'engager et être une femme d'action comme Jeanne d'Arc, va comprendre qu'elle va être une Jeanne d'Arc dans le monastère et elle va rentrer au Carmel, fondé par Thérèse d'Avila, pour faire le lien et la cohérence. Je voudrais... Pour parler de Thérèse de Lisieux, citer une phrase de Thomas Merton, « La grande grâce que je reçus fut de découvrir que la Thérèse de Lisieux est une sainte authentique et non une pieuse petite poupée pour vieille femme sentimentale. Ce n'est pas seulement une sainte, mais une grande, une des plus grandes saintes, une sainte extraordinaire. » Elle est un vrai mystère, cette jeune fille, mort à 24 ans, docteur de l'Église qui transforme tout. Alors il y a une des choses qui, moi, je trouve vraiment important de parler. Donc elle va parler de l'oraison et de l'amour, mais ce qui est très important, c'est que son humilité fait qu'elle ne recherche pas, elle n'attend pas une expérience béatifique plus tard. Ça c'est très très important, parce que nous on a l'impression, si on parle de la sainteté, que d'abord on est dans un état de perfection. Donc on a déjà vu avec Madame Guyon et avec Thérèse d'Avila que c'est pas du tout le cas, que c'est au contraire une forme de simplicité qu'il faudrait suivre. Mais je trouve très beau qu'à un moment, alors qu'elle est très malade, et qu'une sœur lui dit pour la réconforter « Mais bientôt tu verras les anges resplendissants venir te chercher », Thérèse de Lisieux répond « Toutes ces images ne me font aucun bien. Je ne puis me nourrir que de la vérité. C'est pour cela que je n'ai jamais désiré de vision. » Ça, je trouve, c'est très très impressionnant, vous voyez, c'est très impressionnant. Elle ne veut pas qu'on la console, elle veut la vérité. Et quand elle parle de l'amour, l'amour ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine forme de rigueur, de justice. Elle ne cherche pas une expérience douceâtre, confortable, qu'au fond, le chemin, c'est quand même une expérience de dénuement qui nous déconcerte. Et c'est très important parce qu'il va y avoir, il y a une tendance, quand on parle de ces sujets-là, ah oui, nous, on est dans quelque chose de supérieur, parce qu'on est dans quelque chose de spirituel, le spirituel comme confort supérieur. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Et lire Thérèse de Lisieux, ça vous décape par rapport à ça.
Bah, on avait dit que pour Thérèse d'Avila, il y avait du bon sens. Il y en a également chez Thérèse de Lisieux. Elle n'est pas du tout éthérée. Elle a été maîtresse des novices. Elle s'est occupée de ses sœurs. Elle n'est pas du tout éthérée.
L'amour n'est pas éthéré. Parce que l'amour vous rend sensible à la souffrance du monde. Il y a un autre passage de la vie de Thérèse. Sa sœur Céline lui parle de la béatitude du ciel qu'elle vivra plus tard. Et elle dit « Ce n'est pas ce qui m'attire. » Alors sa sœur lui demande « Mais qu'est-ce qui t'attire ?» C'est l'amour. Aimer, être aimé et revenir sur terre. Alors, évidemment, après, c'est pour ça qu'elle va jouer ce rôle d'intercesseur aussi profond. C'est la sainte la plus priée, sans
doute, elle qui
aujourd'hui
a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »
Oui, c'est ça. C'est absolument ça. Ça, c'est vraiment le geste d'amour. Et donc, le geste d'amour, c'est pas « Moi, je vais aller dans un sort de petit confort. Je cherche maintenant mon petit confort et je vais avoir un petit confort. » L'oraison, c'est pas mon petit moment de tranquillité. C'est, au contraire, répondre au geste d'amour. Et heureusement qu'on peut parler de ça, parce qu'on a beaucoup parlé de ce ne rien faire, se laisser aimer, comme transformation profonde, comme transformation radicale, comme transformation du rapport au monde. Mais il faut absolument dire que ce geste-là, c'est un geste d'amour pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est absolument central. Et Thérèse nous permet vraiment de voir cette articulation-là.
Fabrice Midal, Thérèse de Lisieux ne cherche absolument pas les actes extraordinaires. Par contre, elle dit que l'ordinaire, l'ordinaire, on peut le vivre de façon extraordinaire. Oui. Bon, il y a l'exemple, quand elle ramasse une aiguille, elle dit « je fais rien, je ramasse une aiguille, mais je le fais avec amour ».
C'est clair. Après, moi, ce qui me semble aussi frappant, c'est l'engagement dans l'oraison de Thérèse. C'est-à-dire, vraiment, Thérèse s'est engagée dans l'oraison de manière extrêmement profonde. Donc, quand elle est très, très jeune, elle demande à pratiquer l'oraison. Sa sœur refuse. Elle lui dit, mais au moins une demi-heure, sa sœur refuse, voulant la garder auprès d'elle et voulant qu'elle parte pas trop tôt vers Dieu. Et quand elle rentre au Carmel, sa lecture principale, ça, on le sait peu, c'est Saint Jean de la Croix. Et c'est très très étonnant parce que Saint Jean de la Croix est très peu lu. On a vu de la condamnation de Madame Guyon et du quiétisme, donc on a très peur. On commence juste à publier des premiers textes de Saint Jean de la Croix, et donc il rentre au Carmel, c'est pas une lecture très courante. Donc vous voyez, c'est quand même, à la fois Thérèse, c'est la voie de la simplicité, mais elle raconte qu'elle a lu pendant 2 ans, très intensément, Saint Jean de la Croix, qui lui apprend l'oraison. Et on pourrait dire que la voix de Thérèse de Lisieux, c'est vraiment essayer d'entrer dans l'oraison, c'est-à-dire dans cette simplicité de présence à Dieu, de telle manière que la pratique de l'oraison n'est pas juste un temps donné, mais que ce temps-là diffuse dans le reste de la journée. Après, ce qui est très très émouvant pour nous de lire Thérèse de Lisieux, c'est qu'elle raconte qu'elle a voulu faire l'oraison, c'est-à-dire depuis son enfance, puis elle raconte que quand elle était enfant, déjà avec son père, elle allait pêcher, que parfois elle pêchait avec lui, mais que souvent elle restait absolument sans rien faire, en entrant en rapport en présence, et qu'au fond c'était déjà le sens de l'oraison qu'elle cherchait. Mais elle rentre au Carmel, et là, pendant l'oraison, elle s'endort, presque chaque fois. Pourquoi? Elle souffre beaucoup de fatigue, ou alors de distraction. Je trouve ça, c'est tellement bouleversant. Vous voyez, on a une des plus grandes saintes, docteur de l'Église. Elle fait l'oraison, et ben elle s'endort. Mais elle dit, jamais je n'ai manqué même 5 minutes d'oraison. Et jamais je n'ai pris des livres pour lire et perdre ce temps d'oraison. Il faut le faire quand même. Alors, elle dit des choses là que je trouve très très éclairantes. Elle dit, je pourrais m'en vouloir, eh bien, tant pis, je ne me désole pas pour autant. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. C'est absolument bouleversant parce que nous, on se dit « Ah non, mais si je dors, ça ne va pas, je ne réussis pas ma pratique. » Et non.
Elle ne se juge pas.
Elle ne se juge pas et elle continue. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière. C'est magistral. Et donc, elle coupe l'idée qu'au fond, ce sera un effort. On pourrait dire que Thérèse de Lisieux, c'est l'anti-stoïcisme. Notre monde est incroyablement encore stoïcien. Je crois que c'est par une sorte de discipline volontaire qu'on va faire les choses. Et vous voyez, l'abandonnement confiant va jusqu'au fait que je dors, et ben, il y a quelque chose là de très important. J'aime pour rien. Et on retrouve, voyez, c'est pas du tout contradictoire avec Madame Guyon, là. On retrouve exactement la même chose. J'aime pour rien.
Alors, j'aime pour rien, justement, ça va se vivre de manière très très grande chez elle à la fin de sa vie, puisqu'elle ne ressent plus rien, ni présence de Dieu. Elle se dit, ça y est, je vis comme les autres qui sont loin de l'Église et qui, les pécheurs, comme elle dit, hein, je suis à la table des pécheurs.
Oui, parce que ce n'est pas une voie de sécurité, mais malgré tout, il reste une absolue confiance. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. Elle est dans une sorte forme de nuit, mais il y a une forme de confiance qui fait qu'elle est portée par quelque chose, mais qui ne se vit pas comme une expérience particulière. Comme s'il y avait une confiance qui n'est pas de l'ordre de l'expérience sensible. Une démaîtrise totale qui est quand même un geste de confiance et on est habité par quelque chose de très profond. Et ouais, c'est l'idée vraiment, je ne m'occupe pas de moi-même, c'est Jésus qui œuvre en moi. Le geste que j'ai à faire, c'est un geste d'abandonnement. Et donc de ce point de vue-là, je ne crois pas que sa nuit soit très différente des moments de plus grande plénitude. Je ne crois pas que ce soit si différent. Je crois qu'au fond, dans l'oraison ou dans la pratique de la méditation, que votre expérience soit bonne ou mauvaise, que ce soit paisible ou vous soyez torturé, ça ne change rien. Là n'est pas l'enjeu. La confiance est plus grande que la joie que je peux en retirer là maintenant. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, on se trompe quand on parle même de joie, de bonheur, tout ça. Il y a quelque chose de plus radical que ça, dont témoigne Thérèse.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il y a une confiance sans raison. Il y a une confiance plus ample. La mesure de l'oraison n'est pas la qualité d'expérience que je peux en vivre. Ouais, c'est ça, c'est l'intoxication dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais au cinéma, je sens une forte émotion, c'est bien. Mais les émotions ne sont pas toujours vraies. L'émotion n'est pas la mesure de la vérité. Je crois que ce que nous apprend Thérèse, c'est que la mesure de la vérité n'est pas l'expérience agréable que je peux avoir des choses. C'est quelque chose de plus grand que ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand elle est morte, et quand a commencé le procès en béatification, certaines sœurs ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut bien dire sur cette sœur ? On l'a vu, il n'y a rien à déclarer. » Il y a une espèce de sobriété, finalement, de
sobriété,
Thérèse.
Sobriété, même si elle énervait aussi d'autres sœurs, parce qu'elle était tout le temps présente. L'oraison teint toute sa journée. Donc elle considère que quand on doit faire à manger, il ne s'agit pas non plus d'oublier l'oraison. Et donc il y a une qualité de présence qui l'habite. C'est-à-dire que même dans les photos, je regardais avant de venir faire l'émission toutes les photos d'elle, on voit des fois plein de sœurs, vous la reconnaissez tout de suite, une qualité de présence. Elle trouvait vraiment qu'on ne doit pas s'agiter en faisant à manger, qu'on peut le faire avec une certaine qualité d'abandonnement et de présence. Ce qui irritait certaines sœurs qui trouvaient que du coup elle n'était pas forcément assez efficace, vous voyez. Donc l'oraison orientait sa vie tout entière. On insiste beaucoup sur la petite voix, la simplicité, l'abandonnement. Mais vous voyez, la petite voix, ça retrouve aussi beaucoup le moyen court de Madame Guyon. Donc je trouve qu'il y a vraiment une continuité peu montrée aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, il y a quelque chose, ça parle... Je ne suis pas une grande sainte, je ne suis pas prêt pour faire le chemin héroïque de traverser toutes les vertus, je ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, en ne faisant rien, quelque chose va avoir lieu en moi. Et c'est ça, au fond, pourquoi je citais l'exemple tout bête, je m'endors. Eh bien, je suis comme un petit oiseau, ça ne m'empêche pas d'être en présence.
Nous refermons nos entretiens, Fabrice Midal, sur l'oraison et l'amour en regardant cinq figures chrétiennes. Alors, après quatre portraits de femmes, nous terminons avec un homme dont l'œuvre a été saluée par le pape François devant le Congrès américain. Il s'agit de Thomas Merton. C'est un pionnier du dialogue avec le bouddhisme. Il est peu connu, hein, en France. Qui est-il exactement ?
Alors, Thomas Merton était un franco. américain, il est né en France. Il a fait le choix de la vie monastique avec le souci de trouver l'oraison et il est parti vivre à la trappe de Notre-Dame de Gethsemane aux États-Unis.
Donc il était trappiste, moine trappiste.
Donc il est devenu moine trappiste. Il a rédigé sa vie dans un livre à la nuit privée d'étoiles. Il a une vie un peu dissolue et puis il est pris par l'aspiration de l'oraison. Il rentre dans les ordres, il devient trappiste. En racontant son propre chemin, il va toucher toute une génération qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, ce qu'on y parlait dans les années 50, et la bombe atomique.
Mais c'est un homme aussi très engagé aux États-Unis. Hein. Il va se battre contre le Vietnam.
Contre le racisme, contre le Vietnam, contre la course aux armements. On va lui reprocher que, comme moine, il a voulu se retirer du monde et de ne rien faire. Il va dire... Bah, bizarrement, moi, en ayant une vie d'oraison, je suis plus en rapport avec plein de choses dans le monde que la plupart des gens qui s'activent toute la journée. Donc, c'était un peu un des paradoxes. Il va aussi beaucoup énerver, beaucoup choquer. Ses livres vont être brûlés, en partie par certains milieux catholiques qui vont être horrifiés de ce qu'il fait. Le FBI va à un moment le dénoncer comme communiste antipatriote. Mais il va avoir une renommée internationale. Déjà, Paul VI était un admirateur fervent de Thomas Merton.
Et pourquoi lui, le trappiste catholique, chrétien, s'intéresse-t-il au bouddhisme?
On ne va pas venir tout de suite là-dessus, si vous voulez. Je voudrais juste d'abord... Il va commencer par parler de la voie monastique. Je cite un de ses textes. « Le moine ne se contente pas de fuir l'horreur d'un monde coupable pour se réfugier dans l'innocente satisfaite et irresponsable du cloître. Même s'il semble être lui-même sans péché actuel, il doit prendre sur lui le fardeau des péchés du monde. » On ne devient pas moine comme une forme de confort, mais dans un engagement d'une très profonde radicalité.
Donc ça, c'est pas une fuite du monde. On ne se met pas moine pour échapper à la réalité ambiante, mais on la rejoint paradoxalement.
On la rejoint paradoxalement. Ça, c'est tout à fait le paradoxe. Je ne fais rien, en fait, je fais plein de choses. Quand il devient moine, il va être un peu déçu. Il va trouver que les autorités monastiques réduisent le moine à un producteur de prières, sans autre rôle que d'obéir aux intentions et objectifs d'une bureaucratie ecclésiastique. Et qu'au fond, l'essentiel, c'est un saut radical dans le vide, un saut radical de désappropriement, qu'est la rencontre profonde avec le tout autre qui transforme tout. Et donc, il va y avoir un sens de tension et de frustration qui va le conduire d'abord à se tourner vers les pères de l'Église. Les pères du désert. Et ça va être le premier vraiment à se tourner vers les pères du désert, à faire des recherches, à publier des livres sur les pères du désert. Et il va retrouver évidemment ce côté-là. C'est-à-dire, au moment où l'Église devient institutionnelle, il y a des gens qui se barrent, qui vont dans le désert, juste rencontrer Dieu en le cherchant autre que dans tout le côté conventionnel. Et donc, il y a une spiritualité exploratrice. La spiritualité doit être exploratrice et non pas une simple soumission à l'autorité.
Mais c'est pour ça qu'il dérange.
C'est pour ça qu'il dérange. Et c'est pour ça aussi qu'il émerveille. C'est les deux. Et alors après, étape suivante, après la découverte des pères de l'Église, il va vouloir devenir ermite, pensant qu'il y a trop de confort dans le monastère. Et donc, il va essayer d'obtenir l'autorisation de vivre comme ermite à Gethsemane où il vit. Mais ça donne plein de contradictions, parce qu'au moment où on lui donne enfin l'autorisation de s'occuper, de devenir ermite, il va commencer à voyager et aller en Orient. Et alors là, c'est la rencontre avec l'Orient.
Fabrice Midal, nous parlons de Thomas Merton, ce moine trappiste franco-américain, donc qui va s'intéresser à l'Orient. Pourquoi le bouddhisme l'attire?
Cet homme est à la recherche de l'oraison, à la recherche de ce saut dans l'ouverture inconditionnelle, et il est un peu déçu que trop souvent dans le monastère, on tombe dans une nouvelle forme de conformisme et que quelque chose de la profondeur spirituelle fait un peu défaut. Il va se tourner vers les pères du désert, ça va nourrir. Il va se tourner aussi vers l'Orient, mais il est en dialogue. Il dialogue avec Massignon sur l'islam, il dialogue avec Martin Buber dans le judaïsme. C'est quelqu'un qui essaye juste de répondre à une soif spirituelle de son temps qui lui semble manquer. Moi, je pense qu'évidemment, après la condamnation de Madame Guyon et du quiétisme, c'est surtout l'abbé Brémond qui a montré ça de manière absolument magistrale, quelque chose s'est quand même fermé de la transmission. Et donc, Thomas Merton cherche à retrouver ça. Alors, il va d'abord rentrer en rapport avec le zen. Il va échanger avec D.T. Suzuki, un vieux japonais. Et il va écrire dans une lettre à D.T. Suzuki, il dit « Si je ne pouvais pas respirer le zen, je mourrais sans doute d'une asphyxie spirituelle. »
Donc, il est chrétien, convaincu, il reste chrétien. Mais
il restera moine jusqu'au bout.
Mais il va, dans le zen, retrouver quelque chose qu'on aurait perdu justement en Occident.
C'est ce qu'il va dire. Après, il va aller aussi, on est un peu ahuri de voir tous les gens qu'il a rencontrés. C'est-à-dire, il a rencontré tous les grands maîtres vivants de toutes les traditions. Au fond, on peut dire tous les grands maîtres, tous les grands sages, tous les grands saints de son temps. Je crois qu'il les a rencontrés et il était en dialogue avec eux, avec une sorte de flair absolument incroyable. Parce qu'après, il va étudier au Tibet. Moi, je connais bien le monde tibétain. Je suis ahuri, il a vu les plus grands maîtres tibétains, il a pratiqué avec eux. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre très précisément comment on fait.
Et alors, sur l'oraison, justement, qu'est-ce qu'il dit de fondamental et sur l'amour, puisque c'est notre thème, là?
Je crois que ça permet de retrouver, de manière très concrète, ce qu'on a dit jusqu'à présent, de l'oraison, de ce geste « on ne fait rien », ce geste d'amour, mais juste de lui donner un peu de présence et de complétude. Alors après, il y a des choses un peu qui va changer. Par exemple, il se rend compte que peut-être on a tort de dire que l'oraison, c'est de se couper des perceptions sensorielles pour entrer à l'intérieur, que peut-être c'est plutôt une forme de se poser dans une sorte de présence qui n'est pas de couper des perceptions sensorielles, qui n'est pas se couper du monde. Parce que comme il y a une tendance un peu à voir la vie monastique ou la vie érémitique comme une manière de se couper du monde, c'est pas une manière de se couper du monde, donc il va beaucoup insister dessus.
Sur la place du corps.
Sur la place du corps, la place, vous voyez, donc, comme n'étant pas abandonné, mais comme part entière de la pratique. On a un témoignage du Dalai Lama qui avait rencontré Thomas Merton. Grâce à notre discussion, j'ai eu la conviction d'être en présence d'une personne animée d'un vif désir d'apprendre. Ainsi, ai-je jugé qu'il était tout à fait juste, approprié, de l'appeler un guéché catholique. Guéché signifie un savant ou un érudit. Je pourrais dire aussi que c'était un être saint. J'ignore quelle est l'interprétation occidentale exacte du terme saint, mais du point de vue du bouddhisme, est sainte la personne qui met en pratique de façon sincère ce qu'elle sait. Le saint est aussi quelqu'un qui, malgré son savoir ou son rang, mène une vie très simple, est honnête et respecte les autres. Ces qualités, je les ai trouvées chez Thomas Merton. Et donc ça, je crois qu'il y a cette manière de vouloir complètement intégrer la voie de l'oraison dans sa vie, dans toutes les contradictions. Je crois que c'est ça, la grande leçon de Thomas Merton, qui est aussi pris par plein de contradictions. Il est moine, il croit qu'il a commencé à avancer dans les choses. Il a un peu une voie érémitique, il a commencé à comprendre les choses de l'Orient. Il est malade, il se fait opérer et il tombe amoureux de l'infirmière qui le soigne. Comment il fait avec ça? Donc il est vraiment pris...
Pétri dans la chair humaine, dans la pâte humaine.
Et dans la difficulté, donc c'est très éclairant pour nous. Comment il fait? Il dit ceci des fois. « Oh mon frère, le contemplatif n'est pas celui qui a des visions passionnées de chérubins transportant Dieu sur leur char imaginaire. Il est simplement celui qui s'est risqué dans un désert de l'esprit au-delà du langage, au-delà des idées. » En ce lieu où Dieu se trouve dans la simplicité de la confiance pure.
Mais on retrouve Thérèse de Lisieux, là.
On retrouve Lisieux, on retrouve Madame Guyon. Vous voyez, il y a tout un mouvement extrêmement profond qui nous apprend cet abandonnement qui n'est pas une sorte de confirmation de mon existence, qui est la découverte de quelque chose de beaucoup plus ample, qu'est la présence ininterrompue du tout autre, de l'amour. La présence de l'amour est là. Le chemin, c'est un chemin de désobstruction et pas un chemin de gagner quelque chose. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas quelque chose à fabriquer. Ce que disait déjà Thérèse de Lisieux, il ne s'agit pas de monter des échelons, il s'agit de désobstruer ce qui nous ferme à l'amour. Et si je suis tout le temps là, il n'y a pas de place pour la présence. Et si au contraire, je m'oublie, je cesse d'être le centre de tout, alors là, il y a la place pour la présence et tout devient incroyablement plus vivant.
Mais c'est... ce que dit encore le Christ, qui veut gagner sa vie, la perd, et qui perd sa vie, la trouve.
Absolument.
Donc il y a toujours un paradoxe évangélique qu'on retrouve dans la vie de ces grandes figures aussi, toujours le paradoxe.
Et qui est le paradoxe tout simple que de chaque personne qui fait l'oraison, c'est ce paradoxe-là. Il perd son temps, il gagne sa vie. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Je ne fais rien, donc c'est la chose la plus idiote à faire. Et en faisant rien, je fais tout. Je crois que là, il y a une leçon... Et je crois qu'il faut aller au bout de cette leçon et qu'il faut que chacun s'engage dans le chemin de l'oraison parce que c'est là qu'il trouvera vraiment la porte.
Un grand merci à vous. Un grand merci à vous, Fabrice Midal, d'être venu nous parler de l'amour et de l'oraison chrétienne. Ça donne envie d'aller relire les écrits de tous ces grands de la spiritualité.
Donc, il faut vraiment dire, c'est tellement plus simple qu'on ne le croit de les lire. Le Moyen Cours, Madame Guyon, c'est un livre tellement simple.
Merci à vous. Je cite la parution de votre dernier livre, Être au monde, 52 poèmes pour apprendre à méditer aux arènes. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.